Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Anna Agafia, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission, toujours au bord du lac. Là, on a les bateaux Belle Époque hein, de la CGN qui passent devant nous. On a compris que ce début de carrière se passe plutôt bien pour vous, vous nous disiez. Les concerts viennent à moi, je réponds des mails, j'accepte la plupart du temps. Comment les œuvres viennent à vous? Vous avez vos goûts, vous les imposez, on vous conseille. Vous êtes aux enregistrements de vos premiers disques. Hein, est-ce que c'est votre choix de mettre telle ou telle œuvre? J'ai découvert grâce à vous un merveilleux concerto pour violon de Carl Nielsen dont j'ignorais l'existence. La musique danoise par exemple c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en?
Oui, absolument. Je le fais pas assez d'ailleurs pour l'instant, mais je compte le faire. Nielsen, il a plein d'autres œuvres qui sont vraiment géniales.
Il y en a un autre, August Enna.
Oui, ouais, absolument.
C'est partie des non plus des...
Absolument. Après, personnellement, je préfère Nielsen. Mais oui, j'ai mes goûts. Après, ça dépend vraiment du concert. En général, si c'est avec orchestre, ils ont déjà une idée vu leur programmation.
Là, de l'orchestre qui vient vous chercher pour quelque chose.
Oui. Ouais. Mais sinon, en récital, en général, c'est moi qui ai choisi. Donc, par exemple, pour Lavo, c'est moi-même qui ai choisi le programme. Après, vu qu'on joue ensemble avec le Novo Quart, qui sont mes amis d'enfance, il n'y a pas grand-chose pour violon. Et quatuor à cordes et piano. De toute façon, c'est vraiment l'œuvre qui est faite pour ça. Mais oui, en général, en récital, je choisis mes programmes et je. Là, en ce moment, c'est vraiment la musique française qui me plaît le plus.
Qui me possède. Tigane, qui est un solo de Ravel. Alors, moi, paraît très difficile, très virtuose. Et que vous le traitiez, là, c'est vraiment du seul.
Oui. Oui, la première partie de Tigane. La deuxième partie, c'est piano. Mais oui. Et oui, donc, Poulenc fait. Franck, tout ça, j'adore. En ce moment, vraiment, j'essaie de programmer ça. Je
suis allé voir votre site internet sur les quelques extraits de concerts ou de performances que vous mettez en vidéo. J'ai vu Germaine Taillefer, vu Lee Boulanger, Jara Schoon. Il y a une tendance aujourd'hui à faire ressortir les femmes qui ont été mises un petit peu derrière dans toute l'histoire de l'art, pas seulement en musique, mais c'est assez vrai en musique. J'avais vu un reportage sur Germaine Taillefer qui était très lumineux mais qui était un temps très triste. On lui disait oui c'est joli mais enfin voilà ça n'arrive pas à la taille de ce que font tes copains du groupe des 6. C'est quelque chose d'important pour vous l'aspect femme compositrice?
Oui quand même parce que surtout parce que moi-même j'ai pas été assez consciente de ça en fait. J'ai tellement grandi avec cette notion de on joue les compositeurs généraux qui nous sont un petit peu imposés et ce sont tous des hommes et j'y ai jamais vraiment pensé, je me suis jamais posé la question et donc maintenant j'ai un peu honte de ça.
Et non, c'est pas anodin. Hein. Je veux dire, sur 6 ou 7 petites vidéos, il y a en tout cas 3 femmes, 4 femmes mises en avant.
Oui, parce que j'ai compris que si même moi, une femme, ne réalise pas qu'il y a un problème, c'est qu'il y a vraiment, vraiment un problème. Donc, depuis que ma conscience s'est éveillée un petit peu sur ce point-là, je pense que c'est important de faire quelque chose. Ouais.
Bon, ceci dit, les très grandes œuvres, j'imagine pour un violoniste, une violoniste comme vous, le concerto pour violon de Tchaïkovski, que tout le monde connaît, enfin tout le monde a en tout cas quelques notes en tête, ça c'est un passage obligé pour un soliste, une soliste, c'est quelque chose où vous dites j'attends un peu la maturité pour le faire bien, comment vous envisagez ces montagnes-là?
Non, pas vraiment. Je pense que...
On peut le faire plusieurs fois dans une vie, d'ailleurs.
Oui, oui, absolument, exactement. C'est le concerto de Beethoven, par exemple, que je joue beaucoup. C'est une œuvre assez particulière que les gens attendent vraiment de faire jusqu'à ce qu'ils atteignent une certaine maturité. Moi, j'ai commencé à le jouer, je l'ai étudié depuis mes 11 ans, je pense. Donc, je pense que ça dépend de nos goûts et du rapport qu'on a avec ça. Je pense presque au contraire, ce serait mieux de passer à travers tous ces concertos qu'on connaît tous, donc de Beethoven, Brahms, Tchaïkovski, etc. Et puis ensuite aller découvrir des choses qui sont peut-être même plus intéressantes et aller découvrir sa propre voix avec la musique qui nous plaît.
Mais donc ces œuvres-là, vous les abordez si on vous les propose.
Oui,
vous n'allez pas avoir de réserve en disant non, j'y suis pas encore.
Non, pas du tout,
Je pense au fameux concerto, je ne sais plus, le Rack Tree, le Rachmaninov pour les pianistes qu'on dit tellement difficile qu'il faut attendre, etc. Il y a des mythologies. terminologie comme ça dans le monde du violon?
On dit même pour les sonates de Brahms, Brahms en général est considéré comme quelqu'un qui ne se joue pas, on m'a dit avant la cinquantaine, parce qu'il faut avoir vraiment une certaine maturité, un certain vécu pour comprendre apparemment cette musique.
Mais vous, on l'a compris, c'est plutôt un peu même pas peur.
Oui. Non, mais je suis presque d'accord. Je pense, je ressens en la jouant que je suis pas complètement prête encore. Mais c'est pas très grave en même temps. Je pense que c'est bien aussi de renouveler un peu la musique et d'avoir peut-être un regard un peu plus frais sur certaines choses.
À ce propos, les chapelles existent, hein, elles ont beaucoup existé, elles sont en train de se casser un petit peu aujourd'hui. On va volontiers vers d'autres univers musicaux. J'ai parlé dans cette émission avec Ophélie Gaillard, un violoncelliste qui va faire de la musique brésilienne avec Toquinho, qui va faire. C'est quelque chose qui pourrait vous attirer, changer d'univers de temps en temps.
Oui, absolument. J'ai fait quelques projets de jazz pendant que je vivais à Zan, vu que les écoles de jazz et de classique sont assez liées ici. Donc j'ai pu faire quelques projets, j'ai joué au Festival du Huy, et ça me plaît beaucoup de sortir un petit peu norme, jamais improvisé par contre, ça fait peur.
Deux hémisphères du cerveau différents,
oui,
hein.
Rigueur totale
de la partition, en switcher vers l'improvisation.
Je pense que c'est pour quelqu'un comme moi, j'ai vraiment besoin d'un cadre. Même quand je faisais du théâtre, etc., j'ai jamais fait d'improvisation. J'ai besoin de répliques, j'ai besoin exactement ce que je dis et où je bouge, etc. Voilà, donc l'improvisation pour moi, je pense, c'est lointain. Mais si par exemple j'y contourne, j'ai fait quelques concerts qui sortent un peu de la norme, mais j'aime quand même si le style entre guillemets traditionnel qu'on connaît tous pour la classique.
J'ai parlé presque avec tous les musiciens que j'ai rencontrés de ce nouveau monde qui sont les plateformes, hein, avec des timings un peu régulés. C'est difficile d'imposer une pièce de 20 minutes ou d'une heure qui sera séparée en 4 mouvements, peut-être, mais il faut aller vers des pièces courtes. Les maisons disques vont-ils demander aux solistes, aux artistes de faire des pièces courtes pour que ça rentre dans les algorithmes? Vous sentez déjà ce monde?
Oui, un petit peu, surtout pour les gens autour de moi. J'y ai pas trop fait face moi-même. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler de ça aussi, que les maisons de disques préfèrent, s'il faut faire une intégrale par exemple, de la séparer sur plusieurs disques, plusieurs petits disques plutôt, quelques grands disques. Mais oui, c'est vrai que ça a tendance à devenir un commerce. C'est comme si c'est avec les réseaux sociaux, le fait que notre concentration ne dure plus longtemps qu'avant.
Et puis les algorithmes, aller chercher des durées simplement standards. Et c'est un monde qui est en train de changer, mais qui en même temps permet une visibilité le bac de disques ne permettait pas. Hein. On n'allait pas forcément chercher de la musique classique, alors que là, on peut tomber sur quelque chose grâce aux réseaux sociaux.
Oui, c'est
peut-être aussi une popularisation intéressante.
Oui, absolument. Absolument. Ça a un peu une double face, les réseaux sociaux, la musique classique, parce que c'est vrai que ça la popularise beaucoup, et les gens qui connaissent pas la musique classique connaissent des œuvres où j'aurais jamais cru que ça pourrait être le cas, mais en même temps je pense que ça laisse passer aussi des gens, sans vouloir être vulgaire, ça donne le risque de donner des carrières à des gens qui sont pas forcément
qui vont remplir des zéniths
de façon, parce qu'ils sont populaires sur les réseaux sociaux
et un violon qui brille. On va parler de votre violon, hein. Souvent, alors j'ai vu qu'il s'appelait le Sphinx, votre violon.
Oui.
Vous allez nous rappeler le luthier, hein, parce que moi j'ai oublié son nom.
C'est un Guarnerius, un Guarner del Gesù. C'est Joseph Guarner qui l'a fait.
Voilà, et donc on est quoi, au 10e?
On est au 18e siècle. Ouais.
Quel rapport vous avez avec cet instrument? Ces instruments que, carrément, on ne peut pas sourire, hein, il est donateur, il faut des mécènes pour ça.
Oui, absolument.
Peu importe, mais c'est quoi un bip? Vous avez peur pour lui? Comment vous voyagez avec lui? C'est des instruments qui valent des fortunes.
Oui, c'est presque comme un être humain. Pour moi, femme. et c'est marrant parce que tous les violons que j'ai eus avant, je les ai toujours considérés en tant que vraiment masculins, mais celui-là, je le trouve un peu plus féminin. Je pourrais pas vous dire pourquoi, je sais pas. Mais c'est vraiment presque un être humain, et donc quand il sonne pas bien, quand il y a quelque chose qui va, j'essaye vraiment d'avoir presque de la compassion pour lui, parce que c'est une relation extrêmement intime qu'on a. On est tellement proche de notre instrument, on le nettoie, et la façon dont on s'occupe de lui, ça, c'est presque
pas bien moi. C'est moi le problème.
Non, parce que c'est toujours moi. Ça peut l'être, mais c'est toujours le cas.
Il est chafouin, il n'est pas content.
Oui, parce que. Oui, ça peut être quelque chose avec quelque chose d'atmosphérique, le temps qui change.
L'humidité, etc.
Voilà. Ouais. Donc parfois, on se dit vraiment waouh, elle n'a pas envie de jouer aujourd'hui. C'est complètement fermé, etc. Et n'y est pour rien. Donc, c'est une relation un petit peu. Ça peut être compliqué parfois. Parce que c'est pas comme les. On n'a pas notre propre instrument et on se balade entre les différents instruments. On n'a jamais vraiment une relation très très personnelle. Alors que là, c'est vraiment très personnel.
Il y a jamais un concert, sauf si en réparation, ça peut arriver hein, qu'il soit en garage.
Oui, hein. j'ai eu l'air de
mais là,
d'autres
instruments, évidemment. Oui. Bon, parler de relations, c'est important. On va venir sur les relations humaines. Vous avez dit tout à l'heure à qui je vais jouer avec des potes, hein, mes amis d'enfance. Ouais. Comment on garde un réseau social, un tissu avec les orchestres qu'on va voir pendant quelques semaines pour les répétitions, ou peut-être même quelques jours, où on n'aura pas le temps de tisser des liens, des chefs peut-être non plus, on ira manger deux, trois fois avec eux. Comment on forge son réseau?
Bah, vous
d'amitié.
Touchez à quelque chose de très 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 sensible. C'est vrai que c'est vraiment difficile. C'est un point assez important, je pense, de la carrière, parce que pour les solistes, la carrière tient vraiment sur le fait d'être réinvité là où on a déjà été invité. Donc c'est vrai que ça tient beaucoup à des relations humaines. Donc on se
et
voit
avec assez peu de temps pour les
oui,
tisser.
Oui, hein. Oui. Donc on est entre guillemets obligé d'être sociable quand on part quelque part jouer avec un orchestre ou avec un pianiste et il faut sortir, il faut aller manger des dîners avec les chefs d'orchestre, etc. Ça fait partie de la carrière. Je pense que si on fait pas ça, c'est vraiment compliqué de s'en sortir après, parce que on est très vite oublié. Il y a tellement de bons violonistes, de bons musiciens. Mais sinon, après, pour garder des liens avec les gens qui nous plaisent, forcément, c'est plus facile que pour des raisons purement professionnelles. Donc
c'est plus facile, mais la vie que vous menez, c'est difficile quand même.
Oui,
vous êtes
absolument.
Toujours en voyage.
Oui, donc c'est des liens plutôt en ligne, quoi. oui, même avec ce quatuor, on se voit très très peu. Alors que c'est la première violoniste, je la connais depuis qu'on a 5 ans, quoi. Donc on se rencontre pour des concerts, ce qui est super, parce que comme ça on peut partager la musique aussi ensemble.
Bon, ben on partagera de la musique avec vous le 27 juin prochain à Cuilly, au Temple, hein, avec, rappelez-nous, du Poulain qui est...
Du Poulain, du Prokofiev et du Chausson.
Voilà, Poulain, Prokofiev, Chausson, du Forêt pendant quelques jours à Évian, le même jour le 27 juin, puis le 29, le 30, le 1er juillet, avec ces concerts dédiés à Forêt à Évian. Merci à vous, Anna
Garcia. Merci beaucoup.